On nous demande, avec une indulgente ironie, combien il y a eu de grands artistes femmes. Et, messieurs, il y en a eu et c'est étonnant, vu les difficultés énormes qu'elles rencontrent. Marie Bashkirtseff. Bonjour et bienvenue sur Art au féminin. Je suis Algia, la fondatrice de cette chaîne de podcast, et je suis ravie de vous accueillir pour le lancement de cette toute nouvelle saison, la saison 5. Cette nouvelle saison, pour l'autodidacte que je suis, représente pour moi une nouvelle opportunité d'explorer l'art et l'histoire des femmes artistes. Qu'elles aient laissé leur empreinte par le passé ou qu'elles continuent d'inspirer le monde artistique d'aujourd'hui. Alors il y a un mois, j'ai partagé avec vous la partie 1 portant le nom de l'impressionnisme féminin, des toiles éclatantes dans l'ombre de l'histoire. Le but de cet épisode était de partager sur l'histoire de l'impressionnisme et de comprendre le comment et pourquoi ce mouvement est né. Ce mouvement artistique qui a vu le jour en France au 19e siècle a été une révolution artistique majeure. Né en réaction aux normes académiques rigides de l'époque, portant une vision audacieuse de l'art. Avec des artistes qui ont consciemment choisi de capturer l'instantanéité de la vie quotidienne, la fugacité de la nature et la magie changeante de la lumière. Tout au long de cette première partie, que vous pouvez écouter sur la plateforme de votre choix, j'ai cherché à comprendre ce qui a motivé la naissance de ce mouvement et les éléments qui l'ont façonné. Et aussi à explorer l'évolution du mouvement à travers les années et l'héritage précieux qu'il a laissé dans le monde de l'art. Comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour la seconde partie qui a pour but de mettre en avant l'impressionnisme du côté féminin. Car comme vous le savez, ce qui rend ce podcast particulièrement spécial, c'est toujours cette envie de mettre en lumière les femmes artistes souvent passées sous silence, bien qu'elles aient contribué de manière significative à l'impressionnisme. Lors de mes recherches pour ce podcast, j'ai constaté que les récits traditionnels se concentrent fréquemment sur les figures masculines qui ont laissé leur empreinte sur l'impressionnisme. Les femmes impressionnistes, quant à elles, sont souvent occultées, reléguées à l'ombre de leurs homologues masculins. On en cite peut-être une ou deux, comme Berthe Morisot et Marie Cassa. Cependant, en creusant un peu plus, nous découvrons qu'elles sont bien plus nombreuses, et c'est précisément ces artistes dont on parle le moins que je souhaite mettre en avant au fil des épisodes de cette saison. Vous l'avez compris, tout au long de cette saison, nous allons donc explorer leur vie, leurs œuvres et leur contribution essentielle à l'histoire de l'art, l'histoire de l'impressionnisme. Alors, bonne écoute! Dans la première partie, il s'est avéré essentiel de plonger dans l'époque où l'impressionnisme a vu le jour. Pour cela, j'avais choisi d'aborder le règne de Napoléon III. Son autoritarisme, sa modernisation de la France grâce à l'industrialisation et sa promulgation du Code civil en font des éléments clés. Cependant, pour une compréhension plus approfondie, cette fois, je pense qu'il est crucial de se pencher sur la situation des femmes à cette période. En examinant de plus près l'environnement dans lequel elles évoluaient, nous pourrons ainsi mieux appréhender leur place et leurs conditions de vie. Cela implique donc d'explorer les rôles sociaux qui leur étaient assignés, leur accès à l'éducation, leurs droits légaux, leur implication dans la sphère publique, ainsi que leur statut au sein du foyer. Le Code civil de Napoléon III a introduit des idées novatrices pour l'époque, telles que l'égalité devant la loi, la liberté individuelle et la protection de la propriété privée. Ces principes ont jeté les fondations d'une société plus juste et égalitaire, visant à offrir à tous les citoyens une égalité d'accès à la justice, indépendamment de leur statut social ou de leur origine. Cependant, ces avancées étaient entachées par des clauses discriminatoires à l'encontre des femmes. Par exemple, l'article 213, stipulant que le mari doit protection à sa femme, la femme obéissance à son mari. Et bien cet article établissait une hiérarchie juridique plaçant les femmes dans une position de subordination légale vis-à-vis de leurs époux. De même, les articles sur la gestion des biens, 217 et 220, conféraient au mari un contrôle absolu sur les biens du ménage, limitant la liberté des femmes dans la gestion de leurs biens personnels. Les règles successorales, dans l'article 732 et 913, favorisaient souvent les fils par rapport aux filles, perpétuant des inégalités dans la transmission des biens. De plus, l'autorité parentale, dans l'article 372, était principalement attribuée au père, même en cas de décès, privilégiant les hommes pour la tutelle des enfants. Ces dispositions, comme nous pouvons le constater, reflétaient la domination légale des hommes sur les femmes, consolidant ainsi un système patriarcal où les femmes étaient souvent reléguées à des rôles subordonnés et dépendants, malgré les intentions plus égalitaires du Code civil dans l'ensemble. Au sujet du mariage d'ailleurs, Bashkirtsev disait « La France, pour les jeunes filles, est un pays infâme et le mot n'est pas trop gros. On ne peut mettre plus de froid cynisme dans l'accouplement de deux êtres qu'on en met ici en mariant un homme et une femme. Commerce, trafic, spéculation sont des mots honorables, appliqués proprement, mais ils sont infâmes, appliqués au mariage, et pourtant, il n'y en a pas de plus juste pour raconter les mariages français. » D'ailleurs, Bashkirtsev ne compte pas être prise ainsi en otage. « On veut me marier, mais pour qu'on ne se serve pas de moi pour enrichir quelques messieurs, je déclare nettement que je veux bien me marier avec plaisir, mais à condition que ce monsieur soit riche, en belle position et beau, ou bien un homme intelligent, remarquable. Quant au caractère, fût-ce le diable, je m'en charge. » Du caractère. Bashkirtsev refusait de se marier, et ce malgré la pression sociale et les rumeurs la concernant. Des femmes de caractère qui refusaient le mariage, il y en avait énormément, et en même temps, il n'y avait, comme nous pouvons le constater, aucun avantage à le faire, bien au contraire. Surtout quand Napoléon Bonaparte dit « La femme est donnée à l'homme pour qu'elle lui fasse des enfants ». Et quand elle n'était pas épouse ou mère, les femmes étaient considérées comme étant des objets sexuels ou des modèles. Dans le monde artistique, comme nous pouvons le lire dans « Les pionnières, femmes et impressionnistes » aux éditions des Falaises, si elle n'est pas simple prostituée, la femme constitue une menace pour l'artiste ou pour l'homme qui souhaite réussir. Comme dit lors du précédent épisode, cette époque était l'époque de la révolution industrielle. Le chemin de fer, la banque, la modernisation des villes a mené son lot de changements sociaux. La naissance d'une société de consommation, l'urbanisation rapide a donné naissance à une classe ouvrière croissante, créant des tensions sociales et la misère. Et les impressionnistes se sont efforcés de capturer ces changements dans leur art, notamment en mettant en scène des scènes de la vie quotidienne. La censure politique était une réalité à l'époque, et l'Académie des Beaux-Arts exerçait un contrôle strict sur les expositions officielles. Les artistes impressionnistes se sont souvent heurtés à ce système et ont cherché des moyens indépendants de montrer leur travail, organisant leur propre exposition pour échapper à la censure, tout en faisant face aux nombreuses critiques. Mais si les impressionnistes hommes sont des parias, les impressionnistes femmes le deviennent plus encore. Les pionnières, femmes et impressionnistes, Laurent Manœuvre, édition des Falaises. Si on résume la chose, le 19e siècle fut une époque où les femmes étaient soumises à des normes rigides dictées par le code promulgué par Napoléon en 1804. Ce code, comme je l'ai dit précédemment, limitait donc les droits des femmes, les confinant principalement au rôle d'épouse et de mère, et les privant d'accès à l'éducation et aux professions artistiques. Pour les artistes femmes impressionnistes, ces contraintes sociales étaient d'autant plus contraignantes dans un monde artistique dominé par les hommes. Les hommes impressionnistes, bien que considérés comme des parias pour avoir rejeté les normes académiques, avaient néanmoins plus de liberté pour accéder aux expositions et réseaux artistiques. En revanche, les femmes, quant à elles, étaient souvent reléguées à des rôles marginaux. Si elles n'étaient ni épouses ni mères, elles étaient souvent perçues comme des prostituées, des modèles, des muses ou même des rivales dans le monde artistique. Cette vision réductrice limitait leur reconnaissance en tant qu'artistes à part entière. Il est vrai que les peintres parvenaient difficilement à accepter la réalité de la femme artiste. D'ailleurs, les représentations d'artistes femmes au travail étaient assez rares. Prenons l'exemple de Berthe Morisot, pour ne prendre qu'elle. Jamais Manet ne l'a représentée au travail. Berthe Morisot, l'une des figures impressionnistes, a entretenu une relation artistique étroite avec Édouard Manet, souvent considéré comme son mentor et son ami. Cependant, malgré leur proximité, il est intéressant de noter qu'Édouard Manet n'a jamais représenté Berthe Morisot en train de travailler. Au sein de l'univers artistique de l'époque, Manet a capturé plusieurs portraits de Morisot, mais principalement dans des moments de détente ou de loisirs, soulignant leur relation personnelle plutôt que son travail artistique. Les peintures de Manet la représentent souvent dans des scènes décontractées, évoquant une intimité entre les deux artistes. Cette absence de représentation de Berthe Morisot en train de travailler peut être interprétée de plusieurs manières. D'une part, cela pourrait refléter les normes sociales de l'époque où le travail artistique des femmes était souvent relégué au second plan par rapport à celui des hommes. Manet, bien que proche de Morisot, pouvait être influencé par ces conventions et ne pas considérer opportun de représenter une femme artiste dans son processus de création. D'autre part, cela soulève la question de la perception de Berthe Morisot par Manet. Bien qu'elle ait été souvent considérée comme sa muse en raison de leur relation étroite, cette étiquette pourrait avoir occulté sa véritable stature en tant qu'artiste indépendante. La représentation de Morisot dans des moments de convivialité peut avoir été une façon pour Manet de la montrer sous un angle plus personnel, en tant qu'amie et collègue artiste, mais sans nécessairement mettre en avant son travail créatif. Mais Manet a représenté à deux reprises Eva González au travail, notamment avec Portrait d'Eva González peint en 1870. L'artiste a 21 ans et elle peint une nature morte. Ceci peut soulever d'autres questions. Manet reconnaissait-il davantage le travail artistique de Eva González ? Ou avait-il exécuté les portraits d'Eva González car elle était sa seule et unique élève ? Manet me fait de la morale et m'offre cette éternelle mademoiselle González comme modèle. Elle a de la tenue, de la persévérance, elle sait mener une chose à bien, tandis que moi je ne suis capable de rien. En attendant, il recommence son portrait pour la 25e fois. Elle pose tous les jours et le soir, la tête est lavée au savon noir. Voilà ce qui est encourageant pour demander aux gens de poser. Berthe Morisot. En dépit de cette absence de représentation de Morisot au travail par Manet, l'influence mutuelle entre les deux artistes reste indélébile. Morisot, reconnu pour son style distinctif et sa contribution au mouvement impressionniste, a sans aucun doute été façonné par son interaction avec Manet, tout comme lui a pu être influencé par elle. Et en dépit de la rare représentation des femmes par les hommes, le pinceau à la main, les femmes se sont souvent peintes elles-mêmes, voire même réciproquement. Pourquoi attendre des hommes qu'ils le fassent alors que nous pouvons le faire nous-mêmes ? Dans son article « Pourquoi n'y a-t-il pas eu de grands artistes femmes ?», Linda Nochlin écrit « Toujours modèle, jamais artiste. Telle aurait pu être la devise de toute jeune femme cherchant à se faire un nom dans les arts au XIXe siècle. » Elle donne pour exemple le tableau d'Emily Marie Osborne, « Seule et anonyme ». Une peinture à l'huile sur toile, datant de 1857, faisant aujourd'hui partie de la collection de la Tate. Et à ce sujet, Linda Nochlin écrit « Le tableau d'Emily Marie Osborne nous fournit un exemple de l'atmosphère douteuse qui entoure toute représentation visuelle d'une femme artiste en herbe au milieu du XIXe siècle. La toile représente une jeune fille pauvre mais respectable chez un marchand d'art londonien, attendant nerveusement le verdict de l'arrogant propriétaire sur la valeur de ses toiles pendant que deux amateurs d'art la déshabillent du regard. Par ses sous-entendus, la scène est finalement assez similaire à l'œuvre ouvertement salace de Bompard, un début à l'atelier. Les deux toiles traitent de l'innocence, la délicieuse innocence féminine exposée au monde. Dans celle d'Osborne, Le vrai sujet n'est pas la valeur du travail de la jeune artiste ni la fierté qu'elle y met, mais la charmante vulnérabilité de la jeune femme, celle-là même que l'on retrouve chez le modèle hésitant de Bompard. Comme toujours, il s'agit plus de sexe que de choses sérieuses. Mais qu'en est-il des écoles ? Lors de la première partie de ce podcast, j'avais partagé le fait que le rejet de nombreux artistes traditionnels du salon avait conduit à la création de groupes indépendants et à l'organisation d'expositions alternatives, comme l'exposition de la Société anonyme coopérative des artistes en 1874, qui avait donné naissance au terme impressionnisme. Ces mouvements ont contribué à élargir la diversité artistique et à mettre en question des normes établies. J'ai ajouté le fait que les salons étaient des expositions artistiques annuelles organisées par l'Académie des Beaux-Arts de Paris. Ces événements étaient considérés comme les lieux officiels où les artistes pouvaient exposer leurs œuvres. Les salons avaient une longue tradition remontant au XVIIe siècle et étaient considérés comme les principaux forums d'exposition artistique en France. Il jouait donc un rôle central dans le monde de l'art de l'époque et avait une influence considérable sur les artistes, les œuvres exposées et la manière dont l'art était et devait être perçu. Pour qu'une œuvre d'art soit exposée au salon, elle devait passer par un processus de sélection rigoureux. Un jury de l'Académie des Beaux-Arts était chargé de choisir les œuvres qui seraient exposées. Et ce jury avait le pouvoir de décider quelles œuvres étaient acceptées et méritaient d'être exposées, et les artistes devaient se conformer aux normes et aux goûts de ce jury. Pour un artiste de l'époque, être exposé au salon était essentiel pour gagner en notoriété et en reconnaissance. C'était la principale opportunité pour les artistes d'exposer leur travail devant un public plus large, d'attirer l'attention des critiques d'art, des collectionneurs et des mécènes. Une exposition réussie au salon pouvait propulser la carrière d'un artiste. Les femmes artistes sont confrontées à des discriminations évidentes. L'inscription dans une académie est plus chère pour une femme, avec un service moindre. Il faut ajouter à cela l'impossibilité d'entrer à l'école des beaux-arts ou de bénéficier de cours avec modèles vivants, des récompenses limitées. Les peintres issus d'un milieu modeste doivent en outre trouver des solutions alternatives pour vivre en attendant que vienne un hypothétique succès. Les pionnières, femmes et impressionnistes, édition des Falaises. En octobre 1879, un article de la Gazette des Femmes annonce que les écoles de dessin de Paris comptent actuellement 6370 femmes. Et puis, même quand elles arrivent à être admises dans des écoles, l'étude du nu leur est interdite, sous prétexte d'inconvenance. Pourtant, c'est seulement d'après nature qu'il est possible de former des artistes, et c'est en étudiant le nu que le peintre parvient réellement à être fort, profond et vrai. Écrit Jérôme à Aikins en février 1877. Le monde de l'art impressionniste du XIXe siècle s'est souvent concentré sur un modèle féminin qui est devenu un sujet privilégié tant pour les peintres que pour les écrivains naturalistes. Cependant, une observation notable se dégage. Le modèle professionnel masculin a suscité peu d'intérêt et l'homme est rarement représenté dans les œuvres des peintres impressionnistes. Pour en savoir plus sur le pourquoi, j'ai tenté une approche sur Google à travers la question « Pourquoi y a-t-il dans la peinture plus de modèles nus féminins que masculins ?» Et la première chose qui ressort étant que les hommes nus étaient courants dans l'Antiquité et le sont restés quand la peinture s'est mise à reproduire les œuvres antiques. Ensuite, et sans que cela ne disparaisse, c'est devenu moins courant. Une des raisons est que les hommes et les femmes apprécient les nus féminins. Claire Mingon, historienne de l'art et maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain à l'Université de Rouen, explique et développe ce sujet à travers un article signé Elsa Mourgue, publié le 23 janvier 2023 sous le titre « À l'origine, le nu était masculin ». Article passionnant que je vous invite à lire. Comme nous le savons, la représentation de modèles nus était une pratique traditionnelle dans les écoles d'art pour permettre aux artistes d'étudier l'anatomie humaine, la lumière et l'ombre, et de perfectionner leur technique. Cependant, les femmes artistes étaient généralement exclues de ces espaces d'apprentissage. Les écoles d'art et les ateliers privés étaient souvent réservés aux hommes et peu de femmes avaient accès à ces environnements pour étudier le nu. De plus, la représentation de modèles nus était considérée comme inappropriée pour les femmes en raison des conventions sociales de l'époque qui imposaient des restrictions strictes sur ce qui était considéré comme acceptable pour les femmes. Restrictions qui découlaient souvent d'une perception conservatrice de la décence et de la moralité, limitant ainsi les opportunités pour les femmes artistes de pratiquer cette forme d'art. Néanmoins, certaines femmes peintres impressionnistes ont réussi à contourner ces obstacles en travaillant de manière indépendante ou en trouvant des mentors et des environnements plus ouverts pour étudier le nu. Je pense ici à l'Académie Julian, qui a été fondée en 1866. Malgré les défis, certaines artistes ont abordé le sujet du nu dans leurs œuvres, bien que cela ait pu être moins fréquent ou moins visible dans le contexte artistique de l'époque. Il est intéressant ici de mettre en avant quelques œuvres comme La coiffure de Marie Cassa, Devant la glace de Béatrice Julia Hou, ou encore Autoportrait au nu de Laura Knight. Mais dans quelles conditions peignait-elle ? Pour avoir une idée des conditions et de l'atmosphère, il nous suffit d'observer l'œuvre à l'Académie Julian, peinte en 1881 par Marie Bashkirtseff. L'œuvre captivante de Marie Bashkirtseff, intitulée « À l'Académie Julian », nous offre une fenêtre saisissante et très intéressante sur le monde artistique du XIXe siècle à Paris. Cette toile, réalisée en 1881, révèle l'atmosphère bouillonnante et animée d'une salle de classe artistique à l'Académie Julian. Au premier plan, nous découvrons un groupe de jeunes artistes, principalement des femmes, engagées dans leur travail créatif. Elles sont représentées avec un réalisme frappant, chacune concentrée sur sa toile, capturant l'instant précis où la passion de l'art prend vie. Les nuances subtiles de lumière et d'ombre accentuent leur expression, reflétant la détermination et la concentration nécessaires pour créer. Les protagonistes de cette scène artistique semblent immergées dans leur travail, chacune certainement avec sa propre vision artistique. Certaines ajustent peut-être méticuleusement leurs coups de pinceau, tandis que d'autres observent attentivement le modèle ou la toile de leurs camarades. C'est un instantané dynamique de créativité collective où chaque étudiante incarne la diversité des styles, des techniques et des aspirations artistiques. Le décor de la salle de classe est baigné dans une lumière douce qui caresse les murs et souligne l'ambiance studieuse. Des chevalets, des toiles et des accessoires artistiques s'étalent dans la pièce, créant une atmosphère immersive d'apprentissage artistique. Au-delà de la représentation réaliste de l'Académie Julian, l'œuvre de l'artiste Bashkirtseff offre une réflexion subtile sur le statut des femmes dans le monde de l'art de l'époque. En dépeignant un groupe de femmes artistes, l'artiste témoigne de son époque où les femmes luttaient pour accéder à des domaines artistiques longtemps dominés par les hommes. Cette œuvre devient ainsi un symbole de la volonté et de la détermination des femmes à s'affirmer dans le monde de l'art. Mais qu'en est-il de cette Académie Julian, qui, comme nous pouvons le constater sur la toile, donne la possibilité à ses élèves de peindre des corps ? À son sujet, Anne Larue, dans son ouvrage « Histoire de l'art d'un nouveau genre » aux éditions Max Milo, écrit. Seul établissement ouvert aux Françaises à la fin du XIXe siècle, l'Académie Julian est une école payante et coûteuse. On réserve aux femmes le dernier étage accessible par un étroit escalier sous les toits. Le local est étouffant l'été et glacé l'hiver. Il cantonne les femmes au petit format, les grands tableaux ne passent tout bonnement pas par l'escalier. Marie Bashkirtseff, dans son tableau, l'Académie Julian, montre l'entassement des chevalets, le manque d'espace, mais aussi les femmes au travail et un jeune modèle masculin qui, sinon nu, du moins n'est vêtu que d'une sorte de pagne de berger grec et laisse voir son corps. L'habile message de la pictoresse, pour être atténué que par le pagne et la jeunesse du modèle, n'en est pas moins audacieux. Malgré ces défis, des femmes impressionnistes telles que Berthe Morisot, Marie Cassat, Eva González ou encore Marie Braquemont ont réussi à s'affirmer dans le monde artistique de l'époque. Elles ont dû lutter, bien sûr, pour accéder à une éducation artistique souvent limitée pour les femmes et pour être reconnues dans un milieu artistique masculin. Elles ont souvent été reléguées à des rôles de modèles, de muses ou de femmes artistes, plutôt que d'être célébrées pour leurs réalisations artistiques indépendantes. Ces femmes ont cependant développé des styles uniques et exploré des thèmes variés, des scènes de la vie quotidienne aux paysages apportant une contribution significative au mouvement impressionniste. Elles ont utilisé des techniques novatrices et ont apporté une sensibilité différente à leurs œuvres, souvent en représentant des scènes domestiques ou des liens familiaux avec une finesse et une profondeur uniques. Malgré leur talent, la reconnaissance de leur travail a souvent été minimisée par les normes sociales et l'histoire de l'art patriarcal. Et ce n'est que récemment que leur héritage a été réévalué et que leur contribution a commencé à être correctement appréciée. Aujourd'hui, grâce à un réexamen critique de l'histoire de l'art et à des efforts pour rétablir l'équité dans la représentation artistique, les femmes artistes impressionnistes reçoivent une reconnaissance croissante. Leur influence et leur impact sur le mouvement impressionniste sont désormais mieux étudiés et célébrés. Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir pour garantir une représentation équitable et juste de leur travail dans les récits historiques et artistiques. Il est essentiel de continuer à mettre en lumière ces artistes souvent méconnus pour reconstruire un panorama artistique plus inclusif et représentatif de leurs contributions. Et c'est pourquoi je souhaite continuer cette saison en vous proposant des portraits d'artistes impressionnistes. Dans les épisodes suivants, j'ai envie de partager avec vous la vie et l'art de Marie Cassat, Eva González et Marie Bashkirtseff. Et en attendant les futurs podcasts sur ces artistes, je vous invite à écouter le podcast sur la vie et l'art de Berthe Morisot que j'avais déjà partagé avec vous il y a un petit temps maintenant. Vous pouvez l'écouter bien évidemment sur la plateforme de votre choix. C'est ainsi que cette seconde partie sur l'impressionnisme féminin des toiles éclatantes dans l'ombre de l'histoire se termine. Merci pour votre écoute. Comme d'habitude, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous et lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Ça m'aide beaucoup, en plus de me faire plaisir. Je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. En attendant, je vous propose de me retrouver sur le compte Instagram Art au Féminin pour plus de contenu. Et n'oubliez pas, Art au Féminin a aussi son site internet, où vous pouvez bien sûr retrouver les différents podcasts et aussi des articles. D'ailleurs, le dernier article est sur Lalla et Saïdi, l'art de déconstruire les stéréotypes et l'orientalisme. Belle journée, belle soirée, à vous!